À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le plat de résistance. J'aime dire que l'art entoure ma vie à travers tous ses aspects. Ce matin, je vous invite à écouter notre belle émission qui, on l'espère, sera une démonstration des forces sous-estimées de l'art. On prend le virage ce matin pour l'affront culturel à contresens de la culture classique. Accrochez-vous, on va scruter notre société, la décortiquer, la critiquer grâce à l'art et la culture. Après des recherches et des réflexions collectives autour de l'art et de l'engagement politique, nous voici, étudiants et étudiantes de Paris 8, avec vous aujourd'hui pour vous présenter des dispositifs artistiques qui conjuguent culture et revendication. Prenez note de ces recommandations, cinéma et musique. C'est parti!
Les ateliers de Radio Campus Paris.
Aujourd'hui, pour illustrer notre sujet, vous écouterez une première chronique présentée par Mathis mettant en lumière de la musique engagée au Congo. Après cette chronique, Imen et Clara vont recevoir une partie du collectif Décolonial Film Festival qui vont nous présenter leur festival à contre-courant des institutions et qui se définit lui-même en tant que tel. Ensuite, le film We're Afraid of Ideology, retenu par le DFF en 2019, sera le sujet de la chronique de Clara et Rosa. Enfin, je vais faire une chronique sur l'art dans l'espace urbain, afin de parler d'un lieu symbolique parisien. Mathis, toi tu vas nous parler de musique, et plus particulièrement de musique engagée contre la guerre, c'est bien ça ?
Eh oui, Madi, je vais vous parler aujourd'hui de la République démocratique du Congo. Alors ce pays connaît un drame humain d'une ampleur effrayante depuis des décennies dans l'indifférence générale. Et face à ce silence, des artistes s'engagent, notamment des rappeurs français qui utilisent leur musique pour alerter, dénoncer, mais aussi parler à la jeunesse. Puisque c'est aussi ça le rap, c'est une musique qui parle aux plus jeunes, mais également qui fait entendre des vérités que certains préfèrent ignorer. Il est donc crucial de comprendre comment ces artistes transforment leur acte en leur art en acte de résistance. Mais avant de parler de l'engagement des artistes, je pense qu'il est important de rappeler ce qui se passe actuellement en RDC, notamment dans la région du Nord Kivu. Alors comme on le sait depuis plusieurs mois, les violences se sont intensifiées avec la résurgence du M23, qui est un groupe rebelle soutenu par le Rwanda. Ce conflit, qui dure depuis près de 30 ans, plonge les populations locales dans l'horreur, entre massacres, déplacements forcés et même violences sexuelles utilisées comme art de guerre. Et c'est pour cette raison que 6 poids lourds du rap français et belge, tous issus de la diaspora congolaise, se sont réunis dans le morceau Free Congo, sorti le 20 février dernier, afin de soutenir les victimes de la guerre. Donc dans ce morceau, Gradure, qui est à l'initiative du projet 100% Congo, met en lumière cette tragédie.
Des millions de morts au Nord Kivu, personne n'en parle. Il se passe des dingueries au pays de mes remparts. On pense à vous, je sais qu'un jour on s'y rendra. J'ai rêvé d'un monde meilleur sans Kagame, sans M23.
Alors dans l'extrait que vous venez d'entendre, Gradure évoque les conflits meurtriers qui ravagent cette région. Mais aussi, il évoque un personnage, Paul Kagame. Alors Paul Kagame, c'est le président du Rwanda depuis 2000. C'est un homme assez puissant, mais aussi très controversé, puisqu'il est souvent accusé de jouer un rôle dans l'instabilité à l'est du Congo, qui, on le rappelle, est une région riche en ressources. Le M23, quant à lui, c'est un groupe armé qui sème la terreur depuis de nombreuses années dans cette région, et son nom vient du mouvement du 23 mars, qui est une rébellion qui a commencé à faire parler d'elle en 2012 et qui est revenue en force ces dernières années. Il faut aussi rappeler que de nombreuses associations, y compris l'ONU, accusent le Rwanda de soutenir ce groupe, ce que dément officiellement les autorités de Kigali, la capitale du Rwanda. Selon Amnesty International, on sait que plus de 6 millions de personnes sont mortes en raison des conflits en RDC depuis 1998, et bon nombre d'entre elles ayant succombé soit à la faim ou soit à la maladie. Mais pourtant, contrairement à d'autres crises internationales, celle du Congo est largement ignorée par les médias et les communautés internationales. Et c'est précisément cette indifférence que dénonce aussi Youssoupha dans le morceau avec cette punchline percutante.
Message pour mon pays, c'est le millième. J'ai pas la couleur de peau d'Eminem. Alors les GT font pas s'agiter quand on me massacre pour des minerais.
Alors dans cette punchline, Youssoupha pointe du doigt une vérité dérangeante. Toutes les tragédies n'ont pas la même visibilité médiatique. Il sous-entend ici que la situation concernant un autre pays ou une autre population pourra faire sans aucun doute la une des journaux, et met donc en évidence ce déséquilibre qui, dans le traitement de l'information ou certaines crises, pourtant dramatiques, reste dans l'ombre. Il y a un point très important aussi que j'aimerais souligner. La RDC, c'est un pays qui regorge de ressources, comme on l'a dit, et surtout de richesses. et elle attise aussi énormément les convoitises de groupes armés, de multinationales, mais également de puissances étrangères, donc comme le Rwanda. Et c'est ce que Kalash Criminel dénonce dans son couplet.
On meurt pour des diamants, cobalt et coltan, à la moindre escarmouche comme le président.
Alors ce dernier, il évoque les diamants, le cobalt et le coltan. Alors il faut savoir que le cobalt, c'est un métal essentiel à la fabrication des ordinateurs, des batteries rechargeables et même des smartphones. Et la RDC détient environ 70% de ses réserves mondiales. Et concernant le coltan, la RDC possède environ 60 à 80% des ressources, ce qui en fait donc un acteur incontournable du marché. La RDC, c'est également l'un des plus grands producteurs de diamants au monde, mais le commerce des diamants a été lié dans le passé à des réseaux de corruption et de contrebande, et certains ont même servi à financer justement des groupes armés, comme ce fut le cas dans d'autres pays d'Afrique, avec les tristement célèbres diamants du sang. Gradure alerte également aussi sur un point très important à l'est du Congo, c'est la condition des enfants en RDC, comme le montre cette phrase.
On envoie nos frères mineurs au combat, se faire tuer pour du cobalt, toutes ces richesses nous font du mal.
Il utilise ici le mot mineur qui porte un double sens. Alors, en effet, le mot mineur, principalement comme sens enfant âgé de moins de 18 ans, au Congo, parfois certains âgés de seulement 6 ou 7 ans sont forcés de travailler dans des mines artisanales, dans des conditions parfois très dangereuses, sans équipement de protection. Ils creusent la terre à main nue pour extraire ces métaux précieux, et certains y laissent parfois leur santé et d'autres leur vie. Mais Gradure ne parle pas seulement de ces mineurs dans le sens des enfants qui travaillent dans les mines, il fait aussi référence aux jeunes soldats enrôlés de force dans les conflits armés, des enfants et des jeunes qui sont donc sacrifiés, exploités et envoyés à la guerre pour des richesses dont profitent finalement que les grandes puissances et l'industrie mondiale. Mais en dehors de ce titre, il y a également d'autres artistes qui s'étaient déjà exprimés sur la situation en RDC, comme Fally Ipupa, qui est un grand auteur et compositeur congolais et star de la rumba congolaise. Dans une interview accordée en octobre 2024, Fally Ipupa revient sur ce qui se passe en RDC, et notamment il évoque sa colère et une forme d'incompréhension face à la guerre qui frappe son pays. On l'écoute.
Pas spécialiste, mais je sais qu'on peut parler d'un massacre, génocide, violation de droits de l'homme et insécurité. Ça, c'est sûr, parce que ça fait très très longtemps que ça existe. Je ne comprends même pas pourquoi ça continue jusqu'à aujourd'hui.
Alors en clair, il pointe du doigt la responsabilité des politiques et il n'hésite pas à défendre la musique également comme message de paix.
L'art peut servir aux deux populations. L'art peut servir en tant que messager pour qu'il n'y ait pas plus de morts, plus de guerres. En tant qu'artiste de mission, on a notre part des responsabilités.
Et oui, effectivement, car à travers l'art, les nombreux artistes, que ce soit les artistes français, belges ou même congolais, se mobilisent et utilisent leur musique pour justement expliquer ce qui se passe au Congo et mobiliser le plus de personnes possible.
Merci Mathis. Le Décolonial Film Festival est présent sur le plateau. Clara et Imen vont les recevoir.
Alors nous allons vous faire découvrir un tout nouveau festival, un festival de cinéma, le Décolonial Film Festival. C'est un festival de cinéma engagé qui questionne les notions de colonisation, de pouvoir et de résistance et qui s'impose comme un véritable contre-pied au glamour du Festival de Cannes. Le DFF replace l'engagement politique au centre du cinéma. Les films sélectionnés mettent en avant les spiritualités, les cultures, les résistances et les luttes des peuples opprimés. La première édition a vu le jour en mai 2024 en région parisienne et de nombreux cinémas ont participé à ce projet, notamment le cinéma Saint-André-des-Arts à Paris, le cinéma L'Écran à Saint-Denis ou le Luxy à Ivry-sur-Seine. Il a réuni plus de 2000 spectateurs avec 38 films projetés, des débats, de nombreux invités, des ateliers et des soirées musicales. Un événement spécial a particulièrement marqué cette première édition, l'hommage rendu à Frantz Fanon, psychiatre et essayiste martiniquais, auteur de Damné de la Terre et de Peau noire, masque blanc, figure majeure de l'anticolonialisme fortement impliquée dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Le documentaire de Hassan Mézine, Fanon hier, aujourd'hui, la fiction algérienne Chronique fidèle survenue au siècle dernier à l'hôpital psychiatrique Blida-Joinville, d'Abdenour Zahzah, projeté dans le cadre du festival, nous replonge dans les années Fanon. Sur notre plateau, pour nous parler du DFF, nous sommes heureux d'accueillir trois de ses membres, donc Alicia, Sam, Aristide
et Berry.
Berry, merci.
Merci. Bonjour à vous quatre. Déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire un peu quel est votre rôle à chacun, chacune dans ce festival? Tu peux commencer, Alicia.
Je m'appelle Alicia, je suis la photographe, je fais partie de l'équipe et je fais les photos du public et ainsi que les portraits des invités. Et voilà, ça c'est mon rôle principal.
Salut tout le monde. Moi je m'appelle Sam et du coup moi je fais un peu la coordination entre les différents membres de l'équipe et du comité de programmation et aussi la communication sur nos réseaux sociaux et voilà tout ce qui touche un peu à la programmation du festival.
Bonjour à toutes et à tous, moi je suis Aristide, moi je m'occupe aussi de la programmation avec le reste de l'équipe et je suis un peu comment dire, une personne qui essaye de faire un lien entre les différentes tranche d'âge qu'il y a dans l'équipe, quoi.
Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Berry et je fais aussi partie de l'équipe en termes de coordination et aussi de communication. Et voilà, quoi, j'aide aussi à la réflexion par rapport au festival de manière générale.
Ok, merci. On voulait savoir en fait comment vous est venue l'idée de ce festival. Pourquoi ce festival? Pourquoi un festival décolonial? Et quel est le constat que vous faites du cinéma français aujourd'hui?
Alors l'idée, elle est venue sur un nouveau festival de Cannes, parce qu'en gros, pour expliquer pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est le Décolonial Film Festival, il a lieu au même moment que le festival de Cannes. Et en fait, on a eu un espèce de ras-le-bol du lien que le cinéma français a avec toutes les choses qui nous révulsent au maximum, quoi. Que ce soit sur la question coloniale, que ce soit sur la question sexiste, d'homophobie, même de position sociale, parce que c'est quand même un entre-soi bourgeois extrêmement fort. Et ça, c'est toutes les choses que nous, on est un peu révulsés de voir à chaque fois sur un art qu'on a tendance à apprécier, parce qu'à la base, c'est quand même un regroupement de personnes qui adorent le cinéma. On adore le cinéma, mais de voir que le cinéma est uniquement représenté par ce biais, c'est quelque chose qui nous a... totalement, enfin dans lequel on se reconnaissait pas, et du coup on a eu l'idée de réunir, même Sam était vraiment en première ligne, différents collectifs au sein de Paris, même de la France et même des Outre-mer pour pouvoir proposer autre chose en termes de cinéma, quoi. C'était ça la première phase.
Ouais, effectivement, je pense qu'il y avait vraiment cette intention de regrouper les gens, en fait, et de faire communauté, dans le sens qu'il y avait déjà beaucoup d'initiatives de ciné-clubs, des associations qui faisaient des diffusions de films, mais que c'était un peu dans des petites niches, on va dire, et que, en fait, on trouvait ça peut-être un peu frustrant que les notions décoloniales étaient que un peu réservées dans les cercles militants ou académiques, et là, l'idée, c'était de faire quelque chose un peu plus large et qui pourrait toucher plus de monde, et du coup, de rassembler plusieurs collectifs ensemble pour faire communauté, en fait, ensemble, et d'autant plus que dans le contexte politique, en tout cas de l'année dernière, quand on a voulu lancer ça, il y avait déjà le génocide en Palestine, il y avait beaucoup de censure aussi dans les cercles culturels autour des dénonciations de l'occupation israélienne, et puis que d'autant plus on est toujours dans une incapacité en France de parler très ouvertement ou honnêtement de la question coloniale française, en fait. Et on se disait que la culture et l'espace de cinéma devraient être un endroit où on peut parler librement de ça, sauf qu'il y avait de plus en plus de réticences de la part des festivals de films ou par rapport aux salles de cinéma qui avaient peur un peu de la question politique, on va dire, où il y avait une forme d'apolitisation de la culture. Et l'idée, c'était un peu de repolitiser le monde du cinéma qui, comme disait Aristide, en fait, reste souvent dans un sort d'entre-soi qui n'ose pas forcément parler de ces questions-là, où il y a une forme de censure, en fait, autour de ça. Donc là, l'idée, c'était remettre un peu sur le devant de la scène la question politique et comment le cinéma peut aussi créer un sentiment d'engagement chez le public, quoi.
Donc, en fait, vous travaillez avec des partenaires qui, comme tu l'as dit, proposent déjà en fait, des projections de cinéma engagé ou cinéma, on peut dire, alternatif. Je pense à Flamme, Cinéwax, etc. Donc, vous travaillez avec ces partenaires. Est-ce que vous pouvez nous dire, en fait, quel est leur rôle? Comment ils interviennent? Comment est-ce qu'ils réagissent par rapport au public? Comment vous vous organisez, en fait? Comment tout ça se constitue et s'organise? Voilà.
J'ai envie de parler de la manière dont ça a été créé au début. Ça a été créé vraiment dans l'urgence, je peux dire. On s'est réunis le 10 mars à peu près 2024 et deux mois après, le festival a eu lieu. C'est-à-dire que tout le monde avait une envie de créer ce festival et de manière urgente, même si certains et certaines avaient peur que ce soit trop tôt. Mais finalement, on a réussi à se réunir et à créer ce festival en 2 mois.
Mais c'est ce qui est assez étonnant, c'est-à-dire qu'en fait, ça s'est fait super rapidement. Et comment est-ce que vous avez démarché les salles alors ? Comment ça se passe concrètement ?
Ça, c'est le truc le plus compliqué, le plus long, parce que en fait, en s'appelant le Décolonial Film Festival, déjà, on arrive avec un espèce de gros mot qui est sur le dos, où en disant, bah nous, on va pas venir en venant cacher. On est là directement, on dit ce qu'on veut être et pourquoi est-ce qu'on veut diffuser. Et du coup, ça permet d'un certain côté, ça fait que certaines salles ne seront pas ouvertes à nous accueillir, mais ça montre aussi que les salles qui nous accueillent veulent vraiment le faire. Chaque équipe, chaque collectif avait déjà ses contacts avec des salles et des choses comme ça. Et en fait, ce qui a pu être mis en place, c'est une convergence des forces et que par exemple, il y avait sur 2 semaines, il y avait une personne qui avait besoin de diffuser ce film, on avait besoin de 3 heures, il y avait une autre qui connaissait un contact dans cette salle de cinéma, du coup on pouvait pouvoir intégrer facilement et après même pour les contacts, je sais qu'il y a eu, parce qu'à chaque fois les diffusions, il y avait à chaque fois, sous différents formats, mais on essayait d'avoir à chaque fois des discussions, des prises de parole, des choses comme ça, et je sais qu'il y a eu beaucoup d'aide inter-équipe, inter-groupe, assos, collectif quoi. C'est quelque chose de vraiment dès le départ, et c'est peut-être l'urgence qui a nous a obligés à travailler de cette manière, c'est que dès le départ, on était obligé de travailler de manière collective et avec de la solidarité. Et en plus, avec ce nom, on était obligé de montrer qu'on avait une certaine radicalité, quoi, qu'on n'était pas là pour... on voulait pas mentir, quoi. On voulait vraiment montrer qui on était, quoi.
Et pour rebondir un peu sur ce que disait Alicia, les différents collectifs aussi, on a réussi à les mettre aussi facilement en lien. Parce que, par exemple, moi, je fais aussi partie de Cinewax. Et du coup, chaque membre de l'association était aussi en connexion avec des collectifs qui, justement, avaient aussi cette frustration du manque de représentation. Et donc, c'est aussi ça qui a fait que, malgré l'urgence, ça se soit fait aussi vite, en fait.
Parce qu'en tant que spectateur, nous, en fait, on le ressent beaucoup, cette urgence-là. Mmh. Et du coup, moi, j'ai découvert le festival un peu par hasard. On avait discuté un peu avec Sam... lors d'une projection. Et moi, en tant que spectatrice, je peux dire que vraiment, ça m'a... Enfin, vraiment... parce que j'allais plus beaucoup au cinéma. Il n'y avait plus beaucoup de choses qui m'intéressaient. Et là, je me suis dit, enfin, quelque chose qui me parle, qui parle à beaucoup et qui représente un petit peu autre chose de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, en tout cas, je vous remercie parce que c'est un super festival. Donc, je fais ça promo, mais vraiment, il y a énormément de choses à voir, il y a énormément de choses à dire. Et je voulais savoir aussi, est-ce que vous intervenez... alors, on a beaucoup de questions, mais là, c'est une question qui me vient parce que moi, je suis aussi enseignante. Est-ce que vous intervenez auprès des scolaires ? Comment est-ce que vous intervenez ? Est-ce que vous avez des retours ? Parce que c'est des questions qui sont très difficiles à aborder dans les classes. Parce qu'on ne nous permet pas de le faire, parce qu'on est très vite jugé, donc c'est compliqué. Je voulais savoir comment vous, ce que vous parlez à ce jeune public, que ce soit, je ne sais pas si vous avez des primaires ou plutôt des collégiens ou des lycéens, mais je pense que c'est urgent aussi que ça rentre dans nos écoles, quoi. Ce type, cette façon de faire et puis ce type de cinéma et de représentation, c'est vraiment très très urgent que ça rentre dans nos écoles. Et c'est pas évident. Donc je voulais savoir comment vous vous y prenez, et comment vous préparez, par exemple, une séance avec des scolaires. Voilà.
C'est vachement important ce que tu dis, de pouvoir parler à cette jeunesse-là. Et par ailleurs, je pense que les gens qui viennent aussi au festival, pour la plupart, sont aussi plutôt jeunes, en fait, qui se posent beaucoup de questions aussi sur cet héritage-là. Et là, en fait, on met en place... un programme un peu d'éducation à l'image qu'on va proposer à des jeunes de 15-16 ans en partenariat avec l'écran à Saint-Denis justement l'idée c'est de faire un sorte d'atelier où on peut parler de la question du pouvoir en fait comment elle est représentée à l'image et d'avoir du coup des discussions même sur des images qu'on va avoir sur son feed Instagram ou sur TikTok même sur des plateaux télé où on voit souvent il y a des rapports de pouvoir très évident. Enfin, même là, je pense que tout le monde a vu l'échange entre Trump et Zelensky, tout ça. En fait, il y a des sortes de langages corporels aussi qui, visuellement, sont très frappants. Et nous, un des rôles qu'on essaie d'avoir aussi, c'est de rendre les spectatrices dans un rôle actif, en fait, de pas être juste dans une sorte de passivité. On voit des images de manière où on les consomme et sans forcément avoir de réaction ou que ça provoque une forme de réflexion ou de pensée. Et je pense que là, aujourd'hui, on se fait, et d'autant plus quand on est jeune et qu'on est exposé à des outils digitaux, des réseaux sociaux, on se fait un peu assommer d'images et parfois, c'est un peu difficile d'avoir une forme d'analyse critique peut-être sur ce qu'on voit ou de pas se rentrer dans une forme de déprime totale, en fait, quand on voit autant d'images un peu douloureuses ou violentes. Et là, l'idée, c'est du coup de pouvoir questionner ça, d'en discuter. En plus, c'est aussi un âge où, je pense, notre notion du pouvoir vis-à-vis des institutions scolaires ou vis-à-vis même du cercle familial, parental, tout ça, c'est un âge où on se pose des questions aussi sur les dynamiques de pouvoir sans forcément avoir les notions de comment aborder ça. Et en fait, on trouve ça vachement important qu'à cet âge-là, on puisse se poser aussi ces questions-là qui, en fait, reviennent à la question de la colonialité, des hiérarchies de pouvoir et des notions qu'on essaie de déconstruire à l'échelle du festival, en fait. Donc ça, on a vraiment hâte d'essayer de mettre ça en place. C'est assez nouveau pour nous de faire cet atelier-là. L'année dernière, d'ailleurs, ça, c'était, je crois que c'était la séance que vous avez présentée, Berry Aristide. Peut-être tu peux dire deux mots sur ça.
Alors, on avait présenté l'année dernière un film d'Ousmane Sembène qui s'appelle Camp de Tcharoï, dans l'intégralité. D'ailleurs, je vais raconter une anecdote assez illustrante de ce qu'on veut faire avec ce festival, avec ce moment-là, où, en gros, on avait eu des lycéens et des lycéennes qui avaient pu venir à notre séance. On avait réussi à négocier ça avec certains de leurs profs. Et en fait, ce film, il parle de quelque chose qui est extrêmement méconnu dans l'histoire de ce pays, alors que c'est quelque chose d'extrêmement illustrant de la manière de fonctionner avec les anciennes colonies. C'est un moment, il y a 80 ans, du coup, on voulait aussi le faire parce que c'était il y a 80 ans qu'on commémorait les 80 ans de ce massacre, où des tirailleurs, alors ils s'appellent tirailleurs sénégalais, mais on appelle tirailleurs sénégalais parce que c'était le port de départ, il était à Dakar. Mais après, ils venaient de différents espaces de l'Afrique, c'est l'AOF, l'Afrique australe française, il me semble, je revérifierai. Et en fait, l'objectif, c'était déjà de raconter l'histoire et après de pouvoir permettre aux étudiantes et étudiants de pouvoir discuter, pouvoir parler autour de ça, parce que ça va amener des questions. Si ça amène pas de questions, c'est qu'on a mal présenté le truc et qu'on n'a pas bien fait la chose. Et en fait, l'un des trucs qu'on avait remarqué avec cette diffusion, c'est que au moment où on avait diffusé ce film, on n'était pas au courant que le Festival de Cannes allait aussi diffuser ce même film avec une version restaurée, remasterisée et tous les trucs. Et l'un des invités qu'on a eu, qui s'appelle Sidiki Bakaba, qui est un acteur comédien qui joue dans ce film. Eh ben, il nous a raconté qu'il avait été quelques jours avant accueilli à Cannes. Et en fait, ils nous ont dit qu'il était super bien accueilli. Il a eu les petits fours, le costume, tout ça, bien. Mais en fait, à la fin de la diffusion du film, on leur a demandé de se lever. On les a applaudis. Et après, on leur a demandé de se taire et de partir. Et c'est vraiment très illustrant de comment l'histoire et comment la mémoire est pensée. Elle est pensée comme quelque chose d'ancien, qui ne mérite pas du tout de profondeur et qui ne mérite pas qu'on le recontextualise. Ouais, voilà. Et du coup, nous, on avait eu une volonté de, quand on a fait la présentation du film, de pouvoir discuter sur... parce que même le film en lui-même, déjà le moment d'histoire, c'est un moment qui est très illustrant sur... la colonisation et sur les phénomènes de volonté d'emprise gouvernementale à l'heure actuelle. Mais même le tournage a été, parce qu'il nous racontait une anecdote, par exemple, que l'armée française faisait voler des hélicoptères au-dessus du plateau, ce qui cassait totalement le tournage. Et donc, il y a plein de petits trucs comme ça qu'on essaye de faire. Et à la fin, il y a toujours des discussions parce qu'on reste très longtemps devant les cinémas. Voilà.
Ok, merci. Et oui, du coup, ça nous amène à savoir comment vous sélectionnez les films que vous voulez projeter. Est-ce que, comme là, vous l'avez dit, c'est parce que en fonction des événements ou peut-être en fonction du public, comment ça se fait? Comment vous y réfléchissez?
Est-ce que vous avez eu des désaccords déjà sur, ou une polémique sur un film, un film que vous auriez voulu passer, vous n'avez pas passé ou au contraire
Ben, en fait, de ce côté-là, on fait confiance un peu à l'équipe, enfin au comité de programmation. En fait, on leur fait confiance par rapport au choix des films qu'ils vont faire. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on se laisse la liberté de pouvoir aussi en discuter après la projection, parce que, en fait, ce n'est pas des films qui doivent être figés dans le temps, c'est des films qui doivent être en perpétuelle discussion et même remise en question, parce que dans le cinéma, de manière générale, enfin, par rapport aux élites, ils ne remettent pas forcément en question enfin, ce qu'ils diffusent, etc. Et nous aussi, c'est notre rôle de pouvoir créer ces espaces et le faire, même si c'est après la projection. Et par rapport au choix des films, oui, c'est vraiment le comité de programmation qui les choisit par rapport à leur expérience de film, par rapport aux contacts qu'ils ont. Si par exemple, ils ont des personnes qu'ils connaissent et qui peuvent venir pour présenter le film ou donner du contexte au film, ben on les laisse faire ce choix-là. Quoi.
Est-ce qu'il y a un film qui vous a particulièrement marqué dans la première édition, ou un débat, une discussion, quelque chose que, enfin, qui vous a... Je sais pas, qui vous a ému ou qui vous a marqué, quoi.
Ben, j'étais pas émue, mais j'ai vu que la salle était tellement remplie, qu'il y avait tellement des gens qui étaient intéressés par la chaîne d'Histoire Crépus. Et vraiment, je crois qu'on a dû refuser du monde tellement il y avait des gens. Et de voir que ben, les gens sont restés pour les deux séances. Et voir que... Enfin, parce que les deux épisodes ou trois épisodes étaient disponibles sur YouTube, mais ils avaient quand même envie de venir sur place pour discuter. J'ai trouvé, en tant que photographe, moi, je n'ai pas trop pris la parole, mais j'étais j'avais toujours en tête les discussions, parce que des fois, les discussions, duraient plus longtemps que les films. Et j'ai trouvé que c'était très riche... autant pour moi en tant que témoin de ce qui se passait, et pour le public, et aussi pour les intervenants et intervenantes qui venaient, de voir que les gens prenaient autant la parole et qu'ils avaient autant envie de parler et de discuter sur leur film. Et j'ai trouvé que les débats étaient une partie très importante du festival.
Et donc il y a vraiment besoin de ces espaces-là, en fait, des espaces qui sont assez restreints, en fait, assez limités. Puis même il faut aller chercher, c'est-à-dire qu'il faut connaître un peu, parce que ça ne vient pas à nous, en fait. Il faut vraiment aller chercher, il faut être un peu dans le domaine aussi pour pouvoir avoir accès à ces films-là. Donc, c'est très bien. Merci. On voulait savoir aussi comment est-ce que votre festival il est perçu. Est-ce que vous avez des retours des mouvements précurseurs, des coloniaux? Moi, je pense à Ourya Boutelja, Youssef Boussouma, toute l'équipe de, un peu maintenant qui s'est reconstituée dans le média Parole d'honneur. Vous avez des retours ou pas de ces personnes-là? J'étais assez curieuse de savoir en fait ce qu'eux en pensent.
Je sais que Parole d'honneur, ils ont aussi leur ciné-club qu'ils ont monté il n'y a pas très longtemps. Mais en termes de... juste de cinéma, c'est vrai qu'on a quelques échos un peu à gauche à droite des milieux militants. Enfin, il y a même le collectif 1871 qui fait aussi partie du comité de programmation et qui est justement venu après parce que aussi ils avaient besoin de pouvoir avoir cet espace-là. Et en fait, c'est juste qu'au fur et à mesure, il y a beaucoup de collectifs qui sont intéressés par le projet global des Coréens Film Festival parce qu'il y a un manque d'espace à la hauteur. Quoi,
Donc c'est plutôt bien perçu.
Donc oui, c'est plutôt bien perçu dans le sens où il y a un vrai engouement. Les gens viennent et ont envie de dépasser tout ça. Quoi.
Et aussi ce truc qu'on est plusieurs collectifs à l'intérieur du truc qui ont des thématiques assez différenciées et qui sont assez légitimes dans leurs différentes thématiques. Et je vais juste revenir un petit peu en arrière sur le choix des films. Il n'y avait pas vraiment de discussion. C'était plus au niveau des thématiques parce qu'en fait, on a 5 thématiques à chaque fois qu'on met en place. Et c'est plutôt à ce moment-là où il a fallu sélectionner. Donc, ça a eu des discussions qui étaient très intéressantes pour savoir ce qu'on garde. Par exemple, parler de spiritualité, c'est pas quelque chose qui est commun à tous les groupes et à toutes les entités pour parler de questions décoloniales. Même cette année, est-ce qu'on a déjà parlé des thématiques de cette année ou pas? Désolé, j'allais spoiler un petit peu.
Si. On vous prévoit la question pour la fin.
Est-ce que, au moins peut-être les thématiques que vous avez choisies peut-être pour la programmation dernière, lesquelles?
Alors il y avait spiritualité, il y avait résistance, il y avait
diaspora,
terre. Il y avait terre, oui.
Et héritage.
Et résistance, héritage.
Héritage,
oui.
Je voulais revenir aussi sur ta question sur notamment la perception peut-être dans le monde décolonial. Mmh. Je pense que c'est un peu difficile de répondre totalement par rapport à la perception des gens. Mais ce qui est intéressant par rapport à nous, notre espace, c'est qu'on est un peu à cheval sur plusieurs secteurs, on va dire. Mais surtout qu'on on parle plutôt d'un point de vue dans le milieu culturel, en fait. Et du coup, même dans la sollicitation des membres du comité de programmation, vous remarquerez que c'est pas forcément des collectifs militants de base, en fait, parce qu'on voulait pas que ça soit en fait juste le festival des collectifs militants qui vont montrer des films, parce que par ailleurs quand on parle avec pour faire des collaborations de programmation, c'est je pense une sensibilité autre que une direction plus qui prend en compte la valeur artistique aussi du cinéma, et parfois du coup quand on est dans une démarche purement militante, en fait, ça oublie peut-être aussi le pouvoir que peuvent avoir les images, en fait. Et du coup, donc, nous, dans l'idée, c'était comment est-ce qu'on peut plutôt parler à des acteurs, des actrices culturelles pour faire en sorte qu'ils, dans leurs propos, il y ait une forme de politisation, mais pas forcément parler à des gens qui vont déjà être convaincus, en fait, sur cette ligne décoloniale, on va dire. Donc, nous, on n'a pas forcément besoin de convaincre un PDH de... après, là, c'est super qu'ils font un ciné-club maintenant, mais avant, ils n'avaient pas forcément cette ambition culturelle aussi. Mais en fait, on se disait que c'est plus intéressant pour nous. En tout cas, on a un rôle peut-être plus stratégique à jouer dans des milieux qui vont être plus axés sur les questions diasporiques ou antiracistes, queer, féministes, pour en fait intégrer un peu un volet aussi décolonial dans ces espaces-là. Quoi. Donc, je pense qu'on est un peu... je ne sais pas du coup comment c'est perçu, s'il y a une forme de critique. Après, c'est comme on disait, on a aussi des gens au sein de ces collectifs du comité qui militent aussi dans des cercles décoloniaux. Et que du coup, on est quand même ancré avec ce réseau-là. Mais je pense qu'on essaie d'avoir une place un peu différente que ça.
C'est vraiment de la vulgarisation, nous, qu'on veut. On veut être un premier pas. des personnes, et ça je trouve que c'est important qu'on le dise, que nous dans nos séances on veut aussi permettre à tout le monde de poser des questions. On veut pas uniquement des spécialistes puissent poser la question, et on veut pas qu'il y ait des débats sur non c'est pas vrai ce que tu dis, parce que le 12 décembre 1945 il y a eu Jean-Michel qui a dit ça. Non, on veut que des personnes qui connaissent pas forcément par cœur leur histoire puissent au moins avoir une première étape pour après se spécifier ou se spécialiser sur ces thématiques et sujets, quoi.
Ok, mais du coup c'était ma question suivante, c'est qui le public qui vient à vos séances, et est-ce que c'est quel public que vous cherchez à toucher, notamment est-ce que vous arrivez à avoir des gens des classes plus populaires qui viennent, qui sont notamment aussi touchés par ces questions de colonialité, comment ça se passe, et voilà.
Bah ça c'est une question qui est très importante, et notamment au niveau de la localisation des salles de ciné. Nous, on avait une volonté de ne pas être uniquement dans Paris pour pouvoir faire nos séances, parce qu'en fait, le lieu amène un public. Et du coup, on a essayé d'aller à Saint-Denis, d'aller à Ivry, d'aller à différents endroits où on a la possibilité de toucher un public un peu plus jeune, et aussi qui va pas forcément autant au cinéma, parce qu'il y a aussi la question du prix des places, quoi, parce que c'est quand même... c'est un truc de zozo, le prix des places. Moi, j'arrive pas à croire qu'on peut payer 15 balles pour un film qui n'a pas de 3D, pas de popcorn, pas de machin, pas de truc. Un film, 15 balles. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est un plat qui peut être très bon, d'ailleurs. Et donc, le lieu, nous, on est très attentifs sur ça. pour pouvoir avoir un public qui serait un public plus populaire et un peu plus aux marches, quoi.
Ouais, parce que même si tu compares au cinéma Luxi, par exemple, à Évry, c'est une salle municipale, du coup, dans une ville historiquement communiste. Eux, leur place pour des séances de rencontre, c'est 3,50. Tu vois, c'est tarif unique, 3,50. Mmh. Et ça bouge pas, en fait. Donc, c'est même ça par rapport au créneau de l'accessibilité des places. Enfin, c'est un énorme spectre, en fait.
Moi, c'est ce que je trouve intéressant aussi, c'est que si vous avez la possibilité de toucher des salles comme Sarcelles, Garges, Stein, moi, je suis originaire de cette zone-là, je trouve que ce serait vraiment intéressant parce que déjà, le public est directement concerné, la plupart d'entre eux. Et puis, ils ont aussi besoin de savoir, d'en connaître plus. Et comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas forcément des programmations ou des films qui viennent à eux, en fait. Donc, faut aller les chercher. Donc, c'est vrai que si vous avez la possibilité de toucher ces salles-là, moi, je trouve ça vraiment super. Donc, voilà. Et pour finir, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la future programmation ? Parce que j'ai essayé de chercher des choses. On a essayé de chercher, mais on n'a rien trouvé. Donc, peut-être que je ne sais pas si vous voulez en parler ou
ça
si...
Ça fuit pas.
Il n'y a pas assez de gens. Il faudrait qu'ils mettent une fausse balance au sein de l'équipe qui donne des fausses infos.
Ouais. C'est pas faute d'avoir cherché. Hein. On a cherché...
Tu vois, comme les politiques. Tu as tâté le marché un peu.
Mais on peut parler des thématiques qu'on a décidé. Dans les thématiques qu'on a mises cette année, on a décidé de rajouter une thématique qu'on trouve à chaque fois... qu'on dépolitise et qu'on considère un peu comme quelque chose qui était seulement une vibe, c'est la thématique de l'amour. La thématique de l'amour, ça remplit plein de choses. Il y a comment est-ce qu'on aime, qui est-ce qu'on a le droit d'aimer, comment on a le droit d'aimer. Il y a aussi la question de, par exemple, la famille. Comment est-ce qu'on constitue une famille, est-ce qu'on doit aimer tout le monde dans sa famille, comment on doit l'aimer. Enfin, ça pose... énormément de questions et on a trouvé que c'était très intéressant de le voir d'un autre point de vue, ce truc, et pas de histoire d'amour dans le 16e arrondissement, d'un mec qui est dans le marketing et qui tombe, qui vit dans un 70 mètres carrés seul. Enfin, on voulait avoir d'autres visions.
Ce qui représente beaucoup du cinéma français. Mais par contre, on peut annoncer le film d'ouverture qui sera Soundtrack to Coup d'État. Ouais. De Johan Grimont-Prez. Et c'est un film qui retrace notamment des archives autour de l'indépendance du Congo en 1960 et notamment du massacre de Patrice Lumumba et à quel point les Nations Unies et la CIA étaient complices dans ça. Et c'est un film hyper intéressant, même formellement, parce qu'en fait, ça mélange du coup ces images d'archives dans un cadre très politique avec des images sur des représentants, représentantes du jazz afro-américain et qui étaient un peu envoyés par les États-Unis pour faire du soft power culturel à l'international au même moment que ils étaient en train de tuer des indépendantistes africains. Et donc c'est un film assez puissant sur l'importance historique qu'il porte, et ça, on est vraiment très heureuse de pouvoir le montrer. Ça sera en avant-première parce qu'il sort en France en octobre. N'hésitez pas à venir pour ça. C'est pour l'ouverture, c'est le 12 mai du coup.
On attend alors.
Merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous. Merci. Pour l'accueil.
Merci. Merci à vous.
Ya habibi. Ya habibi. Illi nou sama wa nujum wa amaru. Amaru sagaru. Wa anta wa ana. يا حبيبي أنا يا حياتي أنا كلنا كلنا في الحب سوا والغاوة أهو منه الغاوة الغاوة أهو منه الغاوة أهو منه سهران الهوى يسقينا الهنا ويقول بالهنا وين الهوى رغم انه
Retour dans le plat de résistance après un morceau de Oum Kalthoum. Rosa et Clara ont profité de la présence du DFF pour farfouiller dans leur ancienne programmation. Leur attention a été retenue par l'épisode 2 du documentaire de Marwa Arsranios, With Afraid of Ideology. À vous les filles.
Bonjour à toutes et à tous. Comme l'a très bien dit Mahdi, aujourd'hui, nous nous plongeons dans le documentaire Who's Afraid of Ideology, ça veut dire Qui a peur d'idéologie, de Marwa Arsranios, un film qui non seulement examine les unités de protection des femmes kurdes ou YPG, mais qui remet également en question notre compréhension de féminisme, de l'écoféminisme, de la résistance et de l'autogouvernance. Pour contextualiser et comprendre le film, on souhaitait débuter cette chronique en posant brièvement les questions suivantes. Qu'est-ce que le Kurdistan ? Qui sont les Kurdes ?
Alors, le Kurdistan, pays des Kurdes, c'est une zone géographique, culturelle et politique qui a été divisée et colonisée par la Turquie, la Syrie, l'Iran et l'Irak depuis la naissance des États-nations. Les Kurdes, c'est la plus grande nationalité sans État au monde. Seul le Kurdistan irakien est reconnu internationalement en tant que région autonome. Depuis 2011, avec le déclenchement de la guerre en Syrie, la Turquie a pris position contre le système d'autogestion féministe, écologiste et égalitaire des Kurdes de Rojava en Syrie. Cette organisation kurde a été établie malgré les conditions difficiles de la guerre. Les violences contre cette population se sont intensifiées avec la chute du régime de Bachar al-Assad en décembre 2024. En effet, la Turquie poursuit ses opérations militaires et ses invasions au Rojava pour détruire ce système révolutionnaire qui a été mis en place. Il n'y a pas de place pour le YPG dans l'avenir de la Syrie. Et ça, ce sont les mots du ministère des Affaires étrangères kurde, turc, à Kanfidan. Mais du coup, quelle est la différence entre le YPG et le YPG ?
Eh bien, le film Marwa Arsranios, With Afraid of Ideology, est une immersion dans le mouvement YPG et plus précisément dans le YPG, la branche féminine du YPG, qui est une armée d'autodéfense de femmes kurdes luttant contre l'État islamique. Le film, il se déroule dans le village nommé Jnoir, qui signifie la contrée des femmes, le pays des femmes, on peut dire. C'est un village construit par des femmes et pour toutes les femmes, pour celles qui ont perdu leur mari et leur famille pendant la guerre, celles qui ont été victimes de la violence masculine intrafamiliale, Bref, on peut dire pour toutes celles qui en ont besoin. Ce village est situé au Rojava, comme le disent les Kurdes, aujourd'hui renommé administration autonome du nord et de l'est de la Syrie. Le nom a été modifié afin d'inclure toutes les minorités ethniques et religieuses qui ont participé à la création de cette administration. Le film souligne l'approche radicale de l'autogestion, de l'autonomie et de la durabilité environnementale de ce village. La lutte du YPG est présentée non seulement comme un effort militaire, mais aussi un combat plus large pour la liberté de genre et l'autosuffisance en dehors des structures étatiques traditionnelles. En fait, on peut dire qu'elle ne lutte pas seulement contre l'État islamique, mais contre toutes les formes de violence et d'inégalité. C'est une lutte contre la colonisation des terres, mais aussi des corps. Leur révolte va au-delà d'une identité nationale. Il y a une volonté de redéfinir la place des femmes dans la société. Avant d'arriver dans ce village, par exemple, beaucoup d'entre elles étaient confinées à des rôles domestiques. Aujourd'hui, elles ont la possibilité d'évoluer au sein de toutes les sphères de la société, manipulant les armes à côté de leurs camarades masculins. En d'autres termes, il s'agit d'un mouvement à l'intersection de toutes les luttes contre le patriarcat, le colonialisme, le fascisme et la violence d'État.
La réalisatrice, elle met en lumière l'importance de la gestion des terres agricoles alentours. Pendant longtemps, la Syrie n'a pas permis au peuple kurde de cultiver ses terres comme il le souhaitait, dans une stratégie d'appauvrissement de la population. Mais avec le soutien du YPG et du YPG, les Kurdes ont commencé à établir une nouvelle relation avec la nature et leurs terres. Cette approche et les techniques de transmission qui en découlent défient à la fois le capitalisme et le contrôle d'État. On ne cultive pas pour du profit, mais pour développer une économie d'autogestion pour nourrir le village. Ses habitantes ne possèdent pas la terre, mais coopèrent avec elle. Marwa Arsanios l'illustre bien en mêlant le documentaire à la narration expérimentale. C'est-à-dire que son film, c'est un mélange d'interviews, d'images de paysages, de réflexions textuelles pour remettre en question les récits dominants sur la guerre, la terre et l'action politique. Il y a un véritable travail du son, mettant en avant la musique comme outil révolutionnaire, mais également des sons de la nature, la personnifiant presque comme un membre à part entière de la communauté. En dissociant paroles et images, les témoignages y deviennent collectifs et ils sont plus seulement rattachés à un seul individu. La réalisatrice, elle met en avant les maisons, les intérieurs ou les paysages environnants. Elle plonge alors la spectatrice dans une intimité avec le YPG, comme si nous marchions dans le village. Ce film dépeint finalement ces mouvements de femmes comme des forces révolutionnaires qui façonnent un nouveau modèle de vie communautaire.
Pour conclure, on voulait revenir sur pourquoi on trouvait ça important de parler ce film aujourd'hui. En fait, même si la guerre contre l'État islamique a évolué, de nouveaux défis sont apparus. Avec les changements d'alliance dans la région, le YPG est maintenant confronté aux menaces des opérations militaires turques, à l'instabilité géopolitique. Cette fragilité politique encourage la présence des djihadistes et de l'État islamique dans la région. Cependant, l'administration autonome du nord et de l'est de la Syrie est en faveur d'un système de gouvernement laïque qui place les femmes et toutes les minorités ethniques et les religieuses au centre de la vie. Il est donc plus que jamais essentiel de soutenir, d'entendre la voix et la lutte de ce mouvement.
Du coup, si ce documentaire il vous intéresse, il est facilement disponible sur YouTube. Et pour aller plus loin, si ce sont des thématiques qui vous touchent et vous questionnent, vous pouvez lire The Kurdish Women's Movement, History, Theory, Practice de Dilar Dirik, l'article de Seda Altu, The Syrian Uprising and Turkish Ordeal with the Kurds, ou encore Des paillettes sur le compost, écoféminisme au quotidien de Myriam Bahafou, pour une entrée dans l'écoféministe. On vous conseille également le reportage d'Arte qui s'appelle Syrie, les femmes sur tous les fronts. Et voilà, c'est fini pour nous. Merci de nous avoir écoutés.
Et pour continuer dans cette volonté de parler d'art, moi je vais vous parler de l'art urbain. L'épisode « Et si l'art pouvait sauver une vie ?» du podcast Dialogue m'a transpercée. À cette question, je n'ai pas de réponse pour vous. Donc je vous répondrai que je ne sais pas. À vrai dire de cette question, j'ai réfléchi et essayé de repenser la femme que j'étais. Sur ma bio WhatsApp, on peut lire « Remerciements à l'art » avec un S à remerciement. Ici, je remercie les cours du théâtre du lycée, du Centre culturel de Vultaneuse de m'avoir façonné, et aussi Aurélia, ma professeure de théâtre durant toute mon adolescence. Avec ces quelques phrases, vous avez compris comment l'art a sauvé ma vie à moi, Mahadi. Quand les tempêtes de la vie n'épargnent pas, et l'art réconforte, soulage entre une musique douce et émouvante. Cependant, j'ai pris le temps d'éteindre mes AirPods et la musique qui me suit sur toutes mes humeurs pendant mes balades, longues comme courtes. Aujourd'hui, pendant ma chronique, je vous invite à vous balader dans Paris avec moi, Siri joue.
Et pourquoi on fait ça ? Des enfants et des lois. Et pour qui ? Pourquoi on fait ça ? Petit, je suis aussi petit que toi. Quand tu veux savoir pourquoi c'est beau ça et ça.
Je vais vous présenter une initiative qui pousse à nous questionner. Quelle place prend l'art dans nos quotidiens, notamment dans l'espace urbain parisien? En été 2025, débutera la fermeture de 5 ans du Centre Pompidou, situé près de l'Hôtel de Ville. La création de ce lieu a été impulsée par l'ancien président Georges Pompidou, qui souhaitait créer un espace où toutes les disciplines artistiques se rencontrent. La Bibliothèque publique d'information, un centre de recherche de création musicale, l'IRCAM, et un musée national d'art moderne et contemporain, cohabite ainsi dans un bâtiment de 45 000 mètres carrés au plein centre de Paris. Ce gigantesque bâtiment ne se distingue pas seulement par toutes les initiatives qu'il abrite, il a aussi de particulier sa bâtisse qui est unique en ce genre. La façade est parée de tuyaux colorés apparents, contrairement aux habituelles façades haussmanniennes du quartier de Châtelet. Les couleurs illustrent les différentes circulations. Par exemple, l'escalier en diagonale rouge et celui pour les visiteurs. Et les tuyaux jaunes sont utilisés pour les circulations électriques. La dimension artistique débute donc bien avant de passer le portique du musée. Elle est déjà imprégnée dans l'architecture et dans l'espace urbain. Le Centre Pompidou retient ainsi l'attention des Franciliens et de ceux en vadrouille au centre de Paris. L'art et l'espace urbain fusionnés ensemble est une véritable richesse. Notre émission arrive à sa fin. Je vous remercie, auditrices et auditeurs, d'avoir pris note de toutes les recommandations faites tout au long de l'émission. Merci à l'Université Paris 8 et le studio radio de notre Université des Créations qui nous ont accueillis. Radio Campus Paris, mille merci de nous avoir accueillis dans vos locaux pour enregistrer notre émission. Je remercie également l'équipe du Décolonial Film Festival qui ont accepté de nous présenter leur festival et activités. Merci à tous les membres de l'équipe, Clara, Imen, Mathis, Rosa, d'avoir écrit et mené à bien cette émission. Une pensée pour Selim qui n'a pas pu être présent avec nous et qui a construit l'émission aussi. Nos échanges étaient vifs et riches par vos parcours de vie et la diversité de nos personnalités. Je finis par remercier très chaleureusement notre formateur et notre formatrice, Camille, notre médiatrice radio, et Pierre-Yves, journaliste. Ils nous ont encouragés dans l'élaboration de notre programme et à aller au bout de nos idées. Le plat de résistance n'aurait pas pu voir le jour sans leur aide précieuse et leur soutien sans faille depuis plusieurs semaines. Au revoir!
Si je suis aussi petit que toi, quand tu veux savoir pourquoi c'est beau ça et ça, ça ne l'est pas voir. La beauté pour non ne s'explique pas. Pourquoi tu vois toi ce que moi?